Bon, Vincent, je vais te laisser la parole. Donc, France, une identité politique, question.
Donc, on va peut-être se présenter très rapidement, Vincent et moi. Après tous ces brillants exposés, j'ai envie de me définir comme déviante, perverse, monstrueuse, hybride, consciente, et je vais rajouter fière d'être consciente. Voilà, donc vous avez vu très rapidement, en 3 minutes, un condensé de ce que Le Gatt a peut-être fait de mieux, c'est-à-dire faire irruption dans la place publique pour amener un discours politique qui n'existait pas encore réellement et appuyer construire ce discours politique sur des fondamentaux théoriques dont on va vous parler un petit peu. Voilà, donc Le Gatt, ça a été Vincent va en parler.
Bah, ça a été déjà, je vais me présenter, je suis Vincent Essay, donc cofondateur avec Karine Boeuf et Tom Rocher, parce que faut te outer aussi, mon chéri, et Maxime Zitouni. Donc, c'était un groupe qui se définit comme le groupe activiste trans, et on insiste bien sur activiste et non pas militant, puisque, bah, vous le voyez, il y a irruption dans l'espace public, il y a aussi la volonté d'amener la question trans sur la place publique, chose qui n'avait pas encore été faite jusqu'à présent. Et donc, moi, j'ai envie de vous décrire un peu ce qui s'est passé, quelle était la situation et le contexte dans lequel Le Gatt est né, parce que là, si vous n'êtes pas au courant des mouvements trans, on passe un peu pour des extrémistes radicaux, et ce qui était un peu le cas à l'époque où Le Gatt est né, mais il faut savoir que pendant très longtemps, il y a eu des associations de convivialité avec des réunions mensuelles qui n'avaient pas de prise de conscience réelle d'un point de vue politique sur les questions trans, mais que la transidentité était mentionnée comme en tout cas la transsexualité était vécue sous le côté victimaire, donc de victimisation, complètement pathologisée et encore et toujours psychiatrisée. Donc c'est dans ce contexte-là où on en avait juste un peu ras-le-cul d'être dans des discours non seulement binarisant, donc il ne laissait absolument pas la possibilité à d'autres identités de pouvoir émerger, d'autres discours de trans autres que transsexuels, donc définis très précisément et critérisés par la médecine et la psychiatrie. Donc c'est dans ce contexte que Le Gatt est né. Donc là je fais vite parce que je pense qu'on arrive un peu tard, hein, Ninon, c'est ça? Ok. L'autre chose qu'il faut savoir, et par souci de transparence, pour bien comprendre les revendications dont on va vous parler par rapport au Gatt, qui vont être abordées par Karine, c'est que Le Gatt se définit comme hétérophobe, dans le sens de la compréhension de l'hétérosexualité en tant que système politique. Et ça, je pense que si vous avez suivi l'ensemble des séminaires de Montreuil, vous avez bien compris les enjeux de l'hétérosexualité en tant que système politique. Mais Le Gatt s'est aussi défini comme anti-républicain, dans ce que la République implique en termes d'assimilationnisme, et évidemment communautariste dans la conception politique du terme de communauté. Donc voilà, que c'était important pour moi de vous rappeler que Le Gatt était hétérophobe, anti-républicain et communautariste, sinon vous n'allez pas comprendre la suite.
Également pluriethnique, parce que c'est une composante qu'on n'a pas tellement travaillée, mais il y avait pas beaucoup de blancs normaux, non. Dans Le Gatt. On avait aussi une composition réellement pluriethnique. Alors, déjà, Tom en a un petit peu parlé, mais pourquoi est-ce que nous, on utilise le terme trans ? On utilise le terme trans parce que dans la compréhension, je veux dire, il y a une tendance de la société à disséquer les identités en un certain nombre de variations qu'elle décide de faire, qu'elle applique des normes. Alors, quand nous, on est arrivé, la grande distinction, c'était entre transsexuels, c'est-à-dire personnes qui veulent se faire opérer, transgenres, personnes qui ne veulent pas se faire opérer. Donc, je ne parle pas des conflits infracommunautaires sur ces genres de qui est une vraie femme, qui est un vrai homme, en fonction de cette classification. Donc, nous, on a amené immédiatement un regroupement derrière cette appellation un peu générique. Et ensuite, on a refusé refusé de parler de du problème trans ou de la problématique trans. On a dit qu'il y avait des questions trans. Donc dans un premier temps, on a essayé de rassembler derrière un terme générique, un terme commun, les infracommunautés qui étaient dispersées. Et en plus, on a essayé de multiplier ces identités. C'est-à-dire qu'on ne parle pas nous de la question trans ou le problème trans, mais on parle des questions trans ou des identités trans. On s'est limité, bien évidemment, parce que on n'avait pas. C'est pas qu'on s'intéresse pas à ce qui se passe à l'étranger, c'est aussi important, mais nous, enfin dans notre construction militante et activiste, on s'est beaucoup intéressé à ce qui se passe en France, parce que déjà en France, l'une des composantes discriminantes qui caractérise les questions trans, c'est le rôle, je veux dire, dramatique de cette. Déjà, on ne sait pas si la médecine est une science, enfin la psychanalyse encore moins. Donc, je suis désolé. Donc, la France est, je veux dire, encore sous la tutelle de la psychiatrie et de la psychanalyse. Et je veux dire, tant qu'on se débarrassera pas de ça, enfin bref. Preuve en est, je veux dire, les séminaires précédents, enfin, on a toujours vu arriver de la psychanalyse. Je veux dire, quand on sait ce qu'il y a dessous, ça fait peur. Alors, la redimension du terme problématique transsexuelle au singulier en question trans au pluriel permet, dans un premier temps, pour nous, sur un plan discursif et politique, d'exclure l'identité trans du champ de la psychiatrie. Alors ça, pour nous, c'est fondamental. C'est-à-dire que, en politisant la question trans, je veux dire, déjà, on s'extrait du discours médical de cette pathologie, je veux dire, qui consiste à dire, Tom le disait tout à l'heure, enfin, je veux dire, être trans, c'est pas être anormal, c'est pas être malade. Être trans, c'est être autre chose. Anormal, c'est être autre chose. Et nous avons essayé d'amener cette dimension politique. On pourrait d'ailleurs faire un parallèle entre ce qui s'est passé avec les identités homosexuelles, je dirais les identités PD ou Gwyn, où on se rapproprie la dimension politique de l'identité. Également aussi sur la question du SIDA, par exemple, puisque nous, en tout cas Vincent et moi, nous sommes des actopiennes militantes, ou nous étions des actopiennes militantes, sur cette problématique du SIDA qui devient politique lorsqu'ACTUP la mène dans le champ politique. C'est vrai que nous, on avait décidé d'amener une posture qui consistait à dire on en a assez d'être dans le discours victiminant, je suis une femme enfermée dans un corps d'homme, ou inversement, et le discours disant je suis très malheureuse, je souffre, c'est horrible, aidez-moi. Ça, nous, on n'en voulait plus. Je crois que ça se voit très bien dans les vidéos, la petite vidéo qu'on vous a présentée. Ça se voit aussi très bien, je pense, dans l'ensemble des vidéos que le GATT a produit en 4 ans.
Ça se voit très bien aussi dans notre vie quotidienne aussi. Donc moi, le prochain chapitre que je voulais aborder, ça s'appelle la supercherie du genre. Ce qui va un peu à contrario du pourquoi on est là, puisque le séminaire s'appelle genre de point normes et transgressions. Et on est arrivé un peu à un point, en tout cas nous, sur notre poussée réflexive et discussive sur les questions de genre. Mais qu'est-ce que ça signifie le genre? Et finalement, la question que l'on se pose, c'est pourquoi les théoriciens, donc psychanalystes, sociologues, philosophes et même queer, restent-ils piégés dans la double problématique binaire, masculin-féminin, mais aussi sexe-genre, et finalement dans le débat sans fin, inné, acquis, avec comme question irréductible, qu'est-ce qu'un corps d'homme ou de femme, mais aussi qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Et finalement, on en vient à... Je vais recommencer. Et finalement, le queer, ce qu'il propose comme outil, comme étant un genre, mais qui est un outil plus ou moins libérateur individuellement, reste confiné à une reproduction, une réalimentation du binarisme, parce que finalement, le genre, on n'a parlé que du genre d'un point de vue masculin ou féminin. Donc ça, niette, moi je pense qu'on est arrivé à un moment où parler des questions de genre, utiliser le terme même de genre, on ne savait plus du tout de quoi ça voulait dire, de quoi ça voulait parler plutôt. Est-ce que ça voulait dire?
Alors oui, effectivement, on tournait en boucle autour du genre. Le genre, on voulait le faire, le défaire, le refaire, le parfaire, alors que finalement, le genre, c'est très surfait.
Ça, c'est le private joke complètement scénarisé. Et pendant très longtemps, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que pendant très longtemps, les trans ont eu un discours mentionnant que le genre, c'était le sexe psychologique. Mais ça, c'est finalement la branlette de cerveau. C'est très utile quand on veut mentionner les discours victimisants du « je suis un homme enfermé dans un corps de femme »,« je suis une femme enfermée dans un corps d'homme », mais au fond, est-ce que c'est ça qu'on cherche à obtenir comme réponse, et est-ce que ce n'est pas une impasse, de mettre en avant ce discours-là dans la mesure où on est psychiatrisé, pathologisé et que la question trans, elle ne peut pas se défaire du médical dans la mesure où on a besoin des soins, mais qu'il faudrait expressément qu'elle se dissocie du corpus psychanalytique. À toi, ma chérie, non ?
Ah, c'est à moi. Bref, on croit au genre comme on croit en Dieu. Les termes homme-femme, les termes masculin-féminin, ce sont pour nous des constructions. Alors, évidemment, par conséquent, au moment où la société cherche à pousser cette simplification jusqu'à réduire la diversité humaine, et dont Tom a bien parlé, 18 cas d'intersexuation possibles à partir de, simplement des chromosomes sexuels, on se retrouve à avoir, une division, binaire, une division, en deux catégories irréductibles et qu'on décrit maintenant comme un horizon indépassable. À partir du moment où vous avez que mâle et femelle, vous ne pouvez plus, pratiquement plus que créer des hommes et des femmes. À partir du moment où la norme se situe là, la norme de genre qui va se créer sur la norme de sexe ne peut être que binaire à son tour. Et sachant qu'à partir du moment où on a créé donc cette norme, cette double norme binaire et qu'on a fait semblant de l'opposer l'une avec l'autre, on exclut tout ce qui ne rentre pas dans la case parfaite. Alors nous en tant que trans, on a justement choisi de construire, d'aller au-delà de ces normes médicales et sociologiques, de tailler nos corps, de les retailler, de faire ce que l'on voulait de notre corps. Et oui, d'ailleurs...
C'est là où certaines féministes nous rejoignent, dans le combat pour la libre disposition de nos corps.
Oui, on est dans ce combat-là sur la libre de disposition de nos corps et la libre disposition de nos identités. Parce que, pour nous, ça va bien ensemble. Ce qui fait que notre profil de choc scénarisé qui disait que notre slogan historique Bistouri oui devient Bistouri oui merde. On va continuer à vous parler de la dictature straight. Alors je vais faire un petit, alors je veux pas être non plus
Annie voudrait qu'on explique la dictature straight.
Nous on est vividienne dans l'âme, c'est-à-dire que si vous l'avez pas lu, lisez-le. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Il faut le relire au moins 3 fois par an pour que ça reste.
Ça rentre bien.
C'est la pensée straight de Monique Wittig. Je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais c'est une base, solide. Il faut y revenir. Donc, elle a écrit ce livre qui s'appelle La pensée straight, et nous on est un tout petit peu loin en parlant de la dictature straight. On pouvait pas ce soir, on a eu de brillantes exposés historiques. On pouvait pas ne pas avoir notre petit rappel historique. Alors nous, on va aller un petit peu moins loin, on va aller en 92. Le président millénaire quand même. On est allé exhumer quelque chose qui est très intéressant. Ça, c'est le rapport Seruskla de 1992 sur... Seruskla est un sénateur qui a travaillé sur la première loi bioéthique ou la deuxième loi bioéthique, je sais plus laquelle. Donc dans ce rapport qui existe, qu'on a été chercher sur le site de l'INSERM, ce très honorable sénateur parle de la question de la question du transsexualisme. Je vais pas tout vous lire, bien que ça soit très très court, mais c'est tout à fait éclairant sur on parle de normes de construction de normes et le médical, mais on va voir comment se réarticule aujourd'hui plein de choses qui ont déjà été décrites par les interventions extérieures. Alors il écrit que concernant la question du transsexualisme, lui il parle de transsexualisme, l'étude de faisabilité, la faisabilité sur le transsexualisme, qui avait été adoptée en 90, avait fait certes envisager d'aborder ce thème dans la loi bioéthique. En effet, la demande de changement de sexe pose des problèmes juridiques. Loi bioéthique, problème juridique. On est en 92, petit point d'histoire, la France n'a pas encore été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à obliger les changements juridiques d'état civil par la Cour de cassation. Donc ce brave monsieur le signale. Que notre article 4, notre code civil permet de changer de prénom, mais guère plus. Le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'y oppose. Alors, c'est très intéressant, l'indisponibilité de l'état des personnes. Ça veut dire qu'on vous classe à la naissance. Et après, ça vous appartient plus. Votre corps appartient à l'état. Mais, dit-il, il ne s'agit, et c'est en gras, il ne s'agit pas d'un problème scientifique nouveau. On revient au scientifisme. Induit par des avances récentes de la biologie et de la médecine. Ayons confiance dans la médecine. Platon évoque déjà l'androgynie et Hérodote le désir de changement de sexe des scythes.
Sérieuse référence, Platon et Hérodote.
Sérieuse référence. Alors, les progrès scientifiques, il y en est à nouveau question, permettent néanmoins de recourir à l'analyse chromosomique, youpi tralala, et en langue 2, hein, ce qui permet de rejeter les demandes des transsexuels. Ah oui, je veux dire, a priori, soit vous êtes, vous êtes hermaphrodite, machin, excusez-nous, vous êtes une victime, on vous autorise, ou alors vous êtes transsexuel et donc on est pervers, déviant, monstre, etc. Puisque le patrimoine est héréditaire, mon patrimoine est héréditaire, je ne l'ai pas fait, mais a priori, il doit être XY, et celui du sexe auquel il ne souhaite plus appartenir, et rendent plus accessible le changement de sexe par hormonothérapie féminisante et par intervention chirurgicale. Donc d'un côté, je veux dire, ces gens-là, je veux dire, ils font grand écart, ça leur fait pas mal. Je veux dire, ils disent, on peut rejeter la demande de changement de sexe, je veux dire, fondée sur l'indisponibilité de l'état des personnes, et en même temps, on peut autoriser le changement de sexe par hormonothérapie féminisante. Va comprendre Charles. Le transsexualisme est donc une appréciation subjective. C'est sûr que de la part de M. Cyrus Clat, sénateur, c'est très subjectif. Le diagnostic de transsexualisme suppose que la personnalité du sujet soit suffisamment structurée. Il faut être sénateur. L'intéressé doit être un adulte, pas d'enfant, et pourtant, monnaie, que celui-ci ait la conviction transsexuelle doit être considérée comme irrévocable. Il ne faudrait quand même pas qu'on change l'idée toutes les 5 secondes.
Sachant que à une époque, c'était très précisé, c'était irrévocable pendant au moins 2 ans. Si au bout de la 3e année, tu changes d'avis, à la limite, t'es plus responsable.
Alors, on n'a pas fini de rigoler. Des études approfondies sur l'identité sexuelle, ils ont approfondi, des analyses de la notion de sexe sont nécessaires. C'est-à-dire que là, je veux dire, c'est un petit peu ce que décrivait Tom dans le cas, dans l'un des cas cliniques qu'il décrivait. C'est-à-dire que, comme personne ne sait fichu la différence entre un homme et une femme, mais on va demander aux trans d'aller chercher cette différence. Ah, peut-être qu'avec eux, on a des chances.
Et on va même aller jusqu'à leur reprocher de donner de mauvaises réponses.
Les salauds. Alors, le rapport du Conseil d'État ne préconise pas de loi. Ah, quand même, les choses intéressantes. Le rapport du Conseil d'État ne préconise pas de loi. Et pourquoi? Et pourquoi? On chercherait d'ailleurs en vain les termes d'une loi définissant la manière dont toi t'être déterminé le sexe d'un individu. C'est clair? L'État ne préconise pas de loi. Ah, quand même, des choses intéressantes. Le rapport du Conseil d'État ne préconise pas de loi. Et pourquoi? Et pourquoi? On chercherait d'ailleurs en vain les termes d'une loi définissant la manière dont toi t'être déterminé le sexe d'un individu. C'est clair. Le Conseil d'État ne préconise pas de loi parce que on n'est pas foutu capable dans une loi de dire qu'est-ce qui fait un homme, qu'est-ce qui fait une femme. Sauf qu'à la naissance, on est tous classifiés. Alors, on est classifié sur quoi?
On a tous et toutes été assignés de force dans une catégorie de sexe.
Alors, je rajoute qu'il termine, mettre l'état des personnes à la disponibilité de l'appréciation subjective des individus créerait un risque de déstabilisation important. Après le péril jaune, le péril trans.
Mais attends, on peut être les deux. Hein.
Une loi permissive pourrait avoir un effet d'amplification comme en Italie. Les mesures concrètes du rapport Breban, il les rappelle, il est gentil, sensibilisation des juges, intervention d'équipes médicales spécialisées auraient dû suffire si elles avaient été suivies des faits. Il faut du cordier puissance 10. Alors voilà, quand on, enfin, je pense que ce petit rappel va bien dans le sens du séminaire, je veux dire sur le transgenre. C'est-à-dire tout y est là, tout y est et peut-être même de quoi faire pour les années à venir. Donc on a, c'est toujours moi, oui, on a toutes et tous été assignés de force dans une catégorie de sexe. Alors, c'est quoi finalement être trans? C'est ni plus ni moins que contester cette assignation de force dans cette classe de sexe à la naissance. Et pour nous, la classe de sexe, c'est une notion politique. C'est une classe politique de sexe, au sens de Wittig. Être trans, c'est donc faire de son corps, de son identité, des outils de résistance et de lutte contre cette dictature straight. Mais de la même manière qu'il faut une conscience politique et que cette conscience politique peut amener à se rebeller contre une oppression politique, je veux dire, sans conscience politique, il n'y a pas de rébellion, il faut une conscience politique de la nature de cette oppression, hein, qui constitue l'assignation de force dans une classe politique de sexe, pour accepter de mener ce combat. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce que nous, on a dit avec le GAD, c'est que tant qu'il n'y aura pas, de la part de tout le monde, hein, qu'il faut prendre conscience que l'assignation de force que tout le monde a eue est une assignation politique, même si
Ça vous fait mal à la tête demain matin en y pensant, parce que je veux dire, mais zut, j'avais pas pensé à ça. Mais toute l'humanité concernée, je veux dire, à partir du moment où toute la société concernée est en n'ayant pas cette conscience, en n'en prenant pas conscience, je veux dire, on se fait tout simplement par silence, par soumission, des complices objectifs des pratiques, des normes médicales, des normes juridiques, des normes sociales, des normes économiques, des normes philosophiques. Je veux dire, c'est bien parce que c'est bien parce que ça, personne ne conteste ça pour soi que la psychanalyse marche. Est-ce une utopie aujourd'hui de vouloir imaginer un monde où chaque individu serait libre de toute assignation sexuée? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'on ne peut pas dire simplement que le sexisme, c'est un racisme initial, c'est un racisme fondamental? Le sexisme en tant que division dans les classes de sexe, c'est un racisme fondamental. Cette assignation dans une classe de sexe, c'est le verrou initial. Et il est impératif de faire sauter, sinon il n'y aura pas de lutte contre le racisme et le sexisme de possible. Tant qu'on n'aura pas fait sauter ce verrou-là, on permettra à la dictature straight, et on permettra à cette dictature straight de reproduire son schéma. Voilà le message qu'avec le GATT, on a essayé de faire passer. On essaie de le faire passer dans un certain nombre de sphères politiques, voire syndicales. C'est très compliqué. On a failli prendre des coups dans la figure.
On l'a vu. Hein.
Voilà, parce que des vieux militants nous disent « Attends, moi je pense à un homme et une femme, je pense à mon père et ma mère. Et si tu continues à m'emmerder, je t'en mets trois. » Voilà. Donc, on est sur ce terrain-là. Je veux dire, c'est bien la norme, c'est bien tout le monde qui l'accepte, qui l'apprend et qui la reproduit. Il n'y a pas de centre à ce pouvoir-là, on le sait depuis Foucault, mais tout le monde la reproduit. Il y a une petite catégorie de gens, c'est les trans, les intersexes, qui se rebellent contre ça.
Certains trans et intersexes.
Oui, d'accord, ok. Faut pas compter sur Cyrus là et les sénateurs, mais peut-être qu'on peut compter sur vous.
Voilà, c'est terminé là.
Il y a un micro sans fil à votre disposition. Pendant que le micro...
Ayant été la seule à respecter la consigne des 20 minutes, je vais juste rajouter un mot qui est que peut-être que simplement le genre, c'est une notion grammaticale, avant tout. Enfin, c'est de là que ça vient. Le genre masculin-féminin, dans certaines langues, il y a du neutre d'ailleurs. Il y a trois genres dans certaines langues, dans beaucoup il n'y en a que deux, dans la nôtre il n'y en a que deux en effet. Pour dire que en effet la norme, en relisant Canguilhem ce matin, je tombais sur en effet l'idée de norme était liée à l'idée d'orthos en grec qui donne orthographe, qui donne orthopédie, qui donne un certain nombre de termes de ce genre, et qu'en effet c'est certainement dans le domaine de la langue qui s'est mis à avoir une normativité affirmée, notamment effectivement à l'époque dont on parle, l'âge classique, etc., avec notamment en France, l'Académie française, tout ce qui va derrière, et qu'en effet, c'est extrêmement politique, cette affaire, de l'ordre du langage, de l'ordre du discours. Et d'ailleurs, on voit bien que là, dans l'effort que vous venez de faire, l'un après l'autre, tous les trois, il y avait effectivement un énorme effort de redéfinition des termes, et que, a priori, d'une certaine manière, le combat, peut-être, il se mène plus là que sur le plan directement médical. Moi, ce que je me demanderais à ce moment-là, dans cette optique-là, c'est pourquoi, effectivement, vous ne demandez pas franchement l'annulation de cet acte de nomination de l'état civil à la naissance, qui fait qu'on met M ou F, ou qu'on met, en termes de numéro de sécurité sociale, 1 ou 2. Je veux dire, là, en effet, on passerait peut-être franchement à autre chose et ça serait simplement dans l'ordre du langage que ça se passerait. Bon, après, sur l'articulation à la médecine, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions parce que je vois pourquoi on préfère s'articuler à la médecine qu'à la psychanalyse ou autre. Mais la médecine étant quand même quelque chose, quelquefois, d'assez dangereux, en effet. Voilà. Ça fait partie des choses qui m'ont toujours interrogée dans cette revendication au changement chirurgical de sexe. Parce que, bon, moi, j'ai la conviction, effectivement, intime qu'il n'y a pas deux sexes, Il y en a beaucoup et c'est pas juste une histoire de chromosomes. Bon,
j'étais que cet exemple.
Non, mais j'étais extrêmement intéressée d'apprendre en effet qu'il y avait tous ces agencements chromosomiques que tu as décrits, possibles, au moins 18, disais-tu. Bon, ok. Après, effectivement, psychiquement, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et philosophiquement, moi, je savais pas que ça allait être aussi orienté. Je m'excuse, j'ai mal pris connaissance du contexte, ce qui est ma faute. Je le reproche à personne. Mais j'ai vu que vous aviez accueilli Sabine Procoris. Alors, je ne sais pas s'il faut la classer dans la philosophie ou la psychanalyse. Peu importe. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a toujours beaucoup frappé dans le raisonnement de Sabine Procoris, parce que je le ressens tout à fait intimement, c'est cette pétition de la ressemblance plus que de la différence. Moi, c'est vrai que d'une certaine manière, je suis extrêmement frappée de voir à quel point alors, les hommes et les femmes, on va dire, d'une certaine manière, se ressemblent plus qu'ils ne se distinguent. Et effectivement, dans laquelle il y a effectivement toutes sortes de gradations, qu'elles soient déterminées ou non, que ce soit une question d'orientation ou une question d'identité, mais qu'en tout cas, effectivement, il y a tout un nuancier extrêmement fin selon les individus, qui peut-être fait partie effectivement de cet espace qui est peut-être plus visible aujourd'hui qu'à d'autres époques où on demande moins de typer, notamment vestimentairement, etc., l'appartenance à tel ou tel genre, mais bon, qui je pense a toujours existé psychiquement en réalité.
Merci beaucoup. Une question ici.
Oui, alors à propos de la politique, je ne sais pas s'il y a besoin du micro ici. À propos de la politique, donc je ne sais pas si vous avez lu l'histoire des transsexuels, mais ça a été préfacé par un sénateur, donc vous vous moquez beaucoup du Sénat, mais c'est un sénateur. Et il y a beaucoup de parlementaires qui ont fait beaucoup de choses pour pousser des lois sur les plus tolérantes envers les transsexuels. Donc à mon avis, il y a une ouverture dans la politique légale et non pas dans les extrêmes. Dans les partis politiques, il faut lutter à l'intérieur des partis politiques parlementaires, légaux. Et non pas dans l'extrême gauche, dans l'extrême droite, etc. À mon avis, c'est là qu'il y a c'est là qu'on peut faire le plus. Quoi. Sur la psychanalyse, moi, j'ai fait 7 psychanalyses. La dernière a duré 1h30. En général, je me fais jeter au bout de 3 séances. La dernière fois, c'est au bout d'une séance. La personne me dit, mais enfin, vous êtes un homme. Je dis non, je suis une femme, je suis attiré par les lesbiennes, j'adore les lesbiennes et tout. Mais enfin, vous ne pouvez pas être attiré par les lesbiennes, ce sont des femmes horribles, etc. Et je dis, vous n'êtes pas très moderne. Elle dit, comment, je ne suis pas très moderne, sortez monsieur. Bon, psychanalyste clinicienne ou psychothérapeute clinicienne. Voilà, en général, comment ça se passe, c'est lamentable. Voilà, c'est pour les psychanalystes. Voilà.
Je pense que ça m'a été légèrement adressé.
Elle m'a dit que j'étais agressive aussi. J'aime beaucoup ça, des psychanalystes.
En fait, j'ai pris le micro, je ne sais pas vraiment quoi dire, mais je trouve que c'est toujours un peu compliqué pour moi d'entendre la psychanalyse, parce que c'est vrai qu'il y a des positions de certains analystes que je ne suis pas d'accord. Et par contre, il y a des principes de la psychanalyse que je trouve que entendent beaucoup le sujet, et que je pense qu'à chaque fois qu'il y a de la vraie psychanalyse, il y a quelque chose de la norme qui tombe. Il y a quelqu'un qui est entendu, en tout cas.
Vous connaissez la théorie des
petits fils ? Non, dites-moi. Non,
vous direz la psychanalyse.
Oui.
Il y a d'autres questions. Ici, vous avez écouté, monsieur.
Oui, enfin, moi, je m'étonnais de voir que, d'entendre parler de binaire, de définir tout ça. Parce qu'au départ, déjà, on ne sait pas définir l'être humain. Donc, je ne vois pas où on pourrait avancer dans le sens d'une binarité. Homme-femme, puisque l'être humain, déjà, on n'arrive pas à le définir. Donc, ça, mathématiquement, ça me semblerait comme s'il y a un ensemble qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, et dans lequel on veut ranger on vous demande de ranger des choses. au départ, déjà, c'est bizarre un peu mathématiquement, logiquement, quoi. Maintenant, moi, j'aurais une question à poser. C'est parce que il y a quelque chose que je me demande. C'est pour la norme médicale. Si on la relie au pathologique, par exemple, moi, si je dis mon grand-père, il a vécu 95 ans en très bonne santé, on va me dire que c'est anormal. Donc, il y a un problème qui me gêne pour la pathologie et la norme. Si vous voulez, au point de vue médical. Puisqu'on doit relier la normale au pathologique. Enfin, d'après ce que j'ai entendu.
Les morts en bonne santé. C'est anormal, en tout cas.
Non, mais c'est quand même... ça apparaît anormal de vivre 95 ans en bonne santé. Et donc, il y a quelque chose qui me gêne.
Entre anomalie et pathologie. Voilà, c'est anormal, ah oui, c'est pas... C'est évidemment pas pathologique.
Donc mon grand-père, c'est une anomalie.
Statistiquement, en tout cas.
Peut-être pas, peut-être qu'il a eu un accident.
Un simple arrêt du cœur.
Il est mort de vieillesse, on dira.
Que
fait-on
des prénoms si on ne vit pas à la naissance? Qu'est-ce qu'on fait des prénoms? Parce que si on n'est ni masculin ni féminin, comment on va nommer? Moi, que disait Valérie sur le problème du langage. Moi, j'ai un fils qui n'a pas eu droit au prénom que je proposais, donc il s'appelle XXX. Parce que... Alors, c'est peut-être intéressant que tout le monde s'appelle X, par exemple, ou Z, ou...
Y, et on peut faire toutes les lettres de l'alphabet.
Oui, mais puisque si on n'est ni féminin ni masculin... À quoi ça sert de donner un prénom féminin ou masculin? Il faudrait donner des prénoms.
Qui dit que les prénoms sont féminins ou masculins?
Ben, je sais pas, quand on s'appelle Juliette.
Et Camille?
Oui, il y a des choses différentes, oui. Mais à ce moment-là, il faudrait rénover le calendrier des prénoms, par exemple.
Il faudrait surtout rénover la façon dont on pense les choses.
Je vais donner juste un simple exemple, c'est moi j'ai vécu longtemps aux Antilles. Aux Antilles, on donne très fréquemment le nom, enfin à nouveau-né, le nom du saint du jour. Ce qui fait qu'il y a des Georges qui sont des filles, des Marie-Claude qui sont des hommes. Je veux dire, ça pose pas de souci.
Non, mais c'est pas le problème, ça pose de souci. Mais je dis, c'est ça aussi qu'on devrait pouvoir expliquer aux gens, que quand on revendique quelque chose, ça transforme des modes de représentation. C'est ça qui est intéressant aussi. Ah ben oui, si on n'est pas seulement dans la rébellion, c'est que si on veut aussi que les gens qui ne sont pas dans le petit groupe puissent accéder à ces transformations, il faut qu'on montre comment ça va transformer l'ensemble de nos représentations. Et on sait à ce moment-là que les représentations ne se transforment pas aussi rapidement que ça.
Évidemment que ça prend du temps, mais pourquoi un homme ne s'appellerait pas Juliette?
Oui, mais je n'ai pas dit que j'étais contre, je dis... Quand on revendique ce que vous avez proposé, il faut aller jusqu'au bout si on veut que l'ensemble des gens comprennent. C'est un peu élitiste la façon dont vous avez présenté les choses. Il faut montrer comment ça imprègne notre vie quotidienne de tous les jours.
Ils sont bien placés pour en parler, comment ils sont empoisonnés au quotidien. Je crois aussi qu'on ne l'est pas autant qu'ils le sont. Et tout à l'heure, tu as dit qu'est-ce que vous, en vous adressant à eux, comptez faire. Justement, si nous, ici, on a, à la Maison Populaire, on a souhaité poser, consacrer une séance à cette question, c'est pour mettre sur l'espace public, parce que, comme il a été dit, ça concerne tout le monde, quoi. Et que comment amener, effectivement, les gens, comme tu as dit, à s'interroger aussi sur leur hétérosexualité, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, bon, toutes ces questions-là, on est tous interrogés. Donc, je ne pense pas que les personnes qui sont là, Ginette, ils ont la réponse, tu vois, pour te dire, voilà, je crois que chacun entre nous, on a la capacité de penser là où on est nous-mêmes objet de ces normativités, si tu veux, et comment, effectivement, il y a des choses qu'on n'accepte pas au quotidien. Donc, la grande révolution, je ne sais pas quand c'est, mais on voit bien que c'est au quotidien, tu vois, qu'on revendique, eh ben moi, je ne veux pas m'appeler
Annie, je vais m'appeler, je sais pas quoi. Enfin, moi, ça va. Je l'accepte. Ça m'empêche pas de faire des choses. Mais la question n'est pas là, je crois. Et puis, l'autre chose, c'est que il y a des dans le vocabulaire, parce que tu as pris ça sur le plan grammatical, Valérie. Je suis pas d'accord parce qu'en arménien, il y a pas d'article. Il y a pas de féminin masculin dans le langage. Tu vois. Donc, on peut pas non plus universaliser. Mais c'est intéressant parce que ça n'empêche pas que chez les Arméniens, je veux dire, si tu es homo, ça passe pas non plus tous les jours, quoi. Donc ça, il n'y a pas foncièrement un rapport entre le langage vocabulaire grammatical et puis la mentalité, quoi. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. C'est pas aussi étroit.
Si on la supprimait, ainsi que les numéros de préfixe de sécurité sociale, je pense que ça n'empêcherait personne de vivre, parce que je ne vois pas en quoi le noter sur une carte nationale d'identité qui a été longtemps avant la carte sécurisée de Pasqua sans la mention du sexe, ça empêchait les gens de vivre. Je veux dire, vous prenez votre carte d'identité antérieure à 94, en carton, il n'y a pas de sexe dessus. On s'en passait très bien. Donc pourquoi on a eu besoin de la remettre pour faire plaisir à Papa Bush ou je ne sais quoi? Pareil sur le passeport, où maintenant on met même le, non plus un extrait d'acte de naissance, mais l'acte de naissance, la copie d'acte de naissance. Ça veut dire que les gens qui ont une adoption plénière, les gens qui ont des changements de prénom, les gens qui sont divorcés, les gens, tout ça est au su et au vu de tout le monde. Bien évidemment, les changements de sexe. En quoi est-ce que ça va guérir le terrorisme? Je ne crois pas que ça va jouer grand-chose.
Oui, alors deux petits points quand même qui sont. C'est vrai que la mention du sexe sur la carte d'identité. Mais je veux dire, la carte d'identité était un document qui est une sous-munition, on va dire, de l'acte de naissance. Je veux dire, donc, et sur l'acte de la déclaration de naissance, il est mentionné le sexe. Donc, de toute façon, je veux dire, c'est un sous-produit. Hein, la carte d'identité, c'est pas simplement ça. La déclaration dans une catégorie de sexe, je veux dire, c'est pas. Oui, peut-être que d'une certaine manière, on impacte la vie quotidienne de tout le monde, ça c'est sûr, c'est assez dérangeant. Monique Wittig, dans son bouquin de la pensée straight, le dit, c'est une de ses revendications. Elle dit, on a supprimé sur les actes d'état civil la mention de l'appartenance à une couleur, à une race. Et elle dit, deux points, je dis, qu'attend-on pour faire la même chose pour la déclaration dans une catégorie de sexe? Donc c'est pas quelque chose que nous on amène là aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancien, qui est amené par la pensée féministe radicale, je veux dire qui n'est pas non plus évidemment, je veux dire qui ne se contente pas d'un discours sur je prends moi la réalité aujourd'hui qui consiste à dire il y a des hommes et des femmes et je suis bien obligé de faire avec cette réalité, je vais essayer de l'amender, je vais essayer de l'améliorer, je veux dire on a bien vu ce que c'est que les choses qui sont un peu plus tolérantes, enfin dans le film, je veux dire on a essayé d'aller raconter au Parti socialiste qui devait être un peu plus tolérant avec nous, on s'est pris des coups dans la figure. Là-dessus, je sais pas si c'est élitiste. En tout cas, je pense que il y a une vraie question beaucoup plus universelle qui est dessous. C'est pas tellement de savoir si la mention M ou F, je veux dire, elle est en soi normative. Je veux dire, je pense que c'est peut-être beaucoup plus profond que ça. Sur la médecine, je pense que la médecine, je veux dire, c'est aussi ce qu'on en fait. Enfin, je veux dire, je suis pas persuadé que c'est un outil. Enfin, moi, je suis pour les boîtes à outils. Si j'ai la médecine dans ma boîte à outils, je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour si j'ai mal aux dents. Je trouve ça bien si j'ai un problème de plus grave. Voilà. La psychanalyse, c'est pas une science.
Oui, la médecine, c'est un art. Mais après, peut-être qu'il y avait des interventions.
Non.
Il y a des méthodes scientifiques pour aboutir à des choses, comme il y a des méthodes scientifiques pour aboutir à la psychanalyse. La méthode scientifique, ça veut dire la façon dont on va travailler pour construire des concepts ou des notions. Ou des... Mais en soi, ce n'est pas une science. Il n'y a pas d'expérimentation possible et de répéter les mêmes choses. C'est là où on se trompe. Et c'est bien pour ça que, par exemple, l'homéopathie n'est pas prise parce que les autres disent que eux sont une science et que l'homéopathie n'en est pas une.
Y a-t-il des médecins dans la salle?
Oui, mais de toute façon, science ou pas science, tout ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas une idéologie. pointerait.
Enfin, plutôt au service d'une idéologie. Voilà. C'est Annie. Au service d'une idéologie, c'est pas pareil. Comment ne le serait-elle pas? Enfin, la médecine est une... Et comme toutes les pratiques, immergées dans un contexte social, etc. Et bien, et là, ce que vous proposez, c'est, vous êtes dans un rapport politique à la médecine, justement. Bon, mais vous lui demandez pas d'être neutre. Vous lui demandez aussi de vous contribuer au déplacement. Vous essayez de contribuer au déplacement, d'ailleurs avec un certain succès quand même, parce que enfin, il n'y a pas eu que votre mouvement dans ce domaine, et les choses ont quand même beaucoup changé dans ce domaine. Depuis 20 ans, enfin, moi, ce que j'en ai vu, c'était quasi impossible, effectivement, de changer de sexe et d'état civil il y a 20 ans. Ce n'est plus le cas. Donc, y a quand même quelque chose qui s'est passé, effectivement, qui a été de l'ordre du rapport de force politique sur le terrain médical, en effet. Bon, après, sur la médecine, effectivement, bien sûr, si on a inventé la médecine, c'est parce qu'on en a besoin, mais on en a besoin, bon, avant tout. Alors, est-ce que, par contre, on a envie d'aborder la médecine comme un outil de reconstruction mentale de notre corps, bon, que ce soit sur le plan du changement de sexe ou d'autres changements qu'on peut demander à la médecine? Ou est-ce qu'on a envie de dire, en effet, je ne peux pas m'en passer quand je suis confronté à des pathologies importantes, mais est-ce que j'ai envie de lui donner un autre rôle que ça? Enfin, c'est quand même aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment il y a besoin de changer anatomiquement de sexe pour être libre par rapport à ça? Enfin, j'en sais rien. Je sais.
Non, du coup, je prends le métro, le micro. C'est Lala qui parle. Non, mais c'est juste que c'est la différence entre les personnes trans et les personnes non trans, madame qui venait de poser votre dernière question. C'est que, voilà, il y a des gens pour qui il n'y a pas d'autre choix que de faire appel à la médecine, que ce soit à l'endocrinologue ou au chirurgien, pour continuer à vivre. Et puis il y a d'autres gens pour qui c'est effectivement quelque chose qui va rester de l'ordre de « tiens, je vais me questionner toute ma vie avec ça ». Et là, il y a tout l'espace queer, freaks, tout ce que vous voudrez, alterno-genre, fuck gender, etc. etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trans qui s'inscrivent aussi d'ailleurs dans tous ces mouvements-là. Moi, en fait, depuis tout à l'heure, il y a des fois où j'ai bien rigolé, d'autres fois où c'était un peu gênant pour moi. Bon, c'est pas... je pense que c'est bien d'énoncer l'hétérocratie, hein, mais justement de parler d'hétérocratie et pas d'hétérosexualité, parce que précisément, dans la sexualité, il y a du désir, et je pense pas que le désir, ce soit de... Enfin... Mais moi, j'ai fait une psychanalyse aussi, et que ça a été pour moi quelque chose qui a été absolument... Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai du mal à entendre ce lien permanent. Enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, mais ça me fait chier que tu le fasses encore en public. C'est de faire ce collage entre psychiatrie et psychanalyste. Et psychanalyse, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui manque de, je sais pas, de recul ou de... C'est gênant. Après, il y a une question aussi qui est sur lesquelles... Enfin, il y a un truc sur lesquels... Il y a deux plusieurs choses sur lesquelles je suis vraiment pas à l'aise. La première, c'est « ouais, mais un homme et une femme, ça n'existe pas. Après tout, on ne sait pas ce que ça veut dire, etc. » Moi, c'est vrai que j'ai plutôt de... Alors, Wittig, je l'ai lu qu'une fois, pardon. Mais puis après, c'est vrai que je ne lis pas beaucoup non plus, surtout ces temps-ci. Mais j'ai quand même l'impression que ce qui différencie... Enfin, s'il y a un système hétérocrate, mais je vais quand même dire que je suis féministe, hein. Et s'il y a un système hétérocrate, et s'il y a bien... Enfin, si hommes et femmes existent, c'est bien aussi parce que aujourd'hui encore, il y a un système de discrimination, un système d'oppression, un système de domination qui existe des hommes sur les femmes, et que rien que de ce point de vue-là, d'un point de vue matérialiste, la différence pour moi, elle est quand même... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est qu'une femme, il y a déjà des éléments de réponse là. Dans ce rapport de domination qui continue à nourrir un système hétérocrate. Dans ce rapport de domination qui fait que quand tu es trans, bah, tu t'en prends... c'est effectivement beaucoup plus compliqué, surtout quand tu dois passer par les services des équipes hospitalières. Ça, c'est un premier élément... Enfin, c'était un des trucs, moi, qui me paraissait important de rappeler, c'est que, bah, oui, enfin, être un homme et être une femme, c'est pas vrai que c'est exactement la même chose, surtout dans nos sociétés, enfin, encore une fois, hétérocrates et sexistes. De la même manière que c'est pas exactement la même chose d'être... blanche ou noire. bon, ça c'était le petit truc un peu matérialiste, mais après c'était aussi sur ouais, les trans, on est là, bon, le gars t'a fait un super boulot de mise en, enfin, d'arriver sur la question de la dépsychiatrisation, de générer une vraie, comment dire, un consensus au sein des associations sur la question de la dépsychiatrisation, etc., etc. Après, c'est vrai qu'il y a des trans aussi qui vivent leur vie après leur transition, etc., etc., et que n'ont pas consciemment envie ou politiquement envie faire, ni de faire la révolution, ni mais juste d'être heureuse ou d'être heureux, etc. Et que moi, c'est toujours le truc aussi qui me... Sur, ouais, les trans ont fait la révolution et on va tout machin et bababa et tout. Ouais, mais enfin, si on est capable de se faire la révolution ou au moins de résister ou au moins de subvertir, c'est parce que aussi, d'une manière ou d'une autre, on est là en train de valider un système dans lequel, bon an, mal an, on va essayer de trouver notre place et d'une certaine manière dans lequel, enfin, un système qu'on va valider. Enfin, moi, je sais aussi pourquoi je prends des hormones femelles. C'est pas pour essayer de. D'être, je sais pas, un garçon efféminé, c'est bien pour essayer de, enfin, c'est pour être une femme, la femme trans que je suis. Ça, c'était un truc que je voulais dire. Et en fait, c'était ça aussi, c'était, ouais, donc tout le monde, on peut tous se prendre la tête sur, bon, pourquoi je suis homme, pourquoi je suis femme, ou des trucs comme ça, c'est clair que c'est, enfin, c'est sans fin, moi je pense vraiment que c'est sans fin. Après, par contre, il y a, enfin, de manière un peu plus, pour faire continuer à ce que disait Karine et Vincent, il y a d'autres choses sur lesquelles, de toute façon, les trans, quels qu'ils soient, binaires, pas binaires, queer, pas queer, opérés, pas opérés, peu importe, il y a quand même un besoin de, où il y a un besoin de solidarité, de soutien des personnes non trans, qui pour le coup sont encore la majorité, enfin, restent la majorité. Après, oui, ce qui serait chouette, c'est que chacun puisse apercevoir que c'est pas si, c'est pas, enfin, ça ne devrait pas être si compliqué que ça et que ça l'est pas non plus. Mais d'ailleurs, merci à la psychanalyse qui parfois permet justement d'être soi. C'est un freudien le mien. Et puis, c'est pas. Après, je sais qu'il y a des gros congés psychanalystes, hein, je suis pas folle. Mais là où il y a un vrai besoin de soutien, c'est de dénoncer très très clairement. Alors, on l'a vu dans le film un peu Sainte-Anne. Tout à l'heure, Karine a parlé de Cordier, donc peut-être que les gens ne savent pas qui c'est, mais qu'aujourd'hui en France, il y a des équipes hospitalières qui. Enfin, ce qu'a redit Tom aussi tout à l'heure à propos de C, qui a été voir le psychiatre des équipes hospitalières, il y a un monopole de quelques médecins qui, alors, sont traversés d'une idéologie hétérocrate, mais comme vous ne pouvez même pas imaginer, de quelques médecins qui s'arrogent le droit, effectivement, de dire ou pas qui est une personne trans et qui ne l'est pas. Et que ça se passe dans le service public, ça se passe dans les hôpitaux français. Et que quand vous êtes une trans ou un trans un peu fauché, un peu pas informé parce que pas internet ou parce que je sais pas pour des raisons d'une autre, vous vous pointez dans un hôpital, vous avez, parce que vous pensez que, enfin, vous avez envie d'entamer votre transition, et vous vous retrouvez confronté à des équipes dont vous savez que le seul but est de toute façon de vous empêcher de faire votre transition. Là-dessus, moi, je voudrais aussi faire enfin, on peut pas. D'accord. Mais ça, c'est un truc, voilà, ça, c'est quelque chose tout con qui est que c'est ça qu'il faut briser. Et enfin, il y a aussi des gens qui s'inscrivent assez clairement, encore une fois, dans des courants féministes matérialistes. Et c'est pas juste quelques féministes qui se disent, ouais, c'est vrai, notre corps nous appartient, etc. C'est que le vrai, enfin, c'est exactement le même problème que, enfin, la question trans aujourd'hui, les questions trans, les problèmes trans, enfin, la question du monopole du service hospitalier, c'est exactement le même, la possibilité de faire ces transitions, c'est exactement la problématique qui ont connu et que connaissent encore aujourd'hui, parce qu'il serait quand même illusoire d'en faire de dresser un tableau un peu trop angélique, les femmes quant à la contraception et à l'avortement. Et que voilà, c'est juste que à un moment là aussi il y avait une volonté hétérocrate de continuer à se réapproprier le corps des femmes, etc., etc., et que nous on est juste confrontés à exactement la même chose. On veut disposer de nos corps. Alors c'est vrai que les échos sont plus ou moins favorables chez les féministes, dont on sait qu'elles sont au moins aussi nombreuses que les psychanalystes, enfin, en termes de courant de pensée, et encore peut-être plus nombreuses que les trans, mais, enfin voilà, parce que sinon c'est sans fin.
Ah ben oui.
Oui, moi, il y a des points qui m'ont un peu gêné quand même, pour le, par exemple, le GATT. Quand on me dit on veut la liberté d'être trans et qu'on refuse la liberté d'être hétéro aux autres, soit on accepte la liberté des deux côtés, soit on la refuse. Mais il faut pas être extrémiste d'un côté et puis ça me va pas, ça me gêne. Donc République, liberté, soit on l'accepte, sinon c'est les deux côtés ou personne.
Jean-Marc, mais, je crois que t'as mal compris là.
Ou j'ai mal compris, oui, mais moi je l'ai compris comme ça, donc moi ça m'a un peu gêné. Alors effectivement, vous avez montré, vous avez eu des quelques cas où vous avez des gens qui sont apprentis sorciers, qui sont tout et n'importe quoi, effectivement. Maintenant, il faut aussi vous poser la question inverse. Est-ce que, en faisant le contraire, dans l'autre extrémité, c'est pas aussi problématique? Par exemple, si vous retirez, si vous entraînez les gens à ne plus être sexués, est-ce que ça va pas poser plus de problèmes? Ah bah non, mais attendez, quand vous me dites je veux plus de genre, ni homme ni femme, c'est asexué, enfin c'est plus de genre. Alors on va dire plus de genre. Est-ce que ça ne va pas poser plus de problèmes que le genre qu'on donne aujourd'hui? C'est une question qu'il faut se poser.
La même chose, ou est-ce que c'est juste lui qui n'a pas compris?
Bon, donc c'est.
Je voudrais juste savoir si d'autres gens ont compris la même chose que lui. Ou ça veut dire qu'on n'a pas été clair, ou si c'est que lui qui n'a pas compris.
Je sais pas, moi on m'a dit il faut supprimer le genre sur la carte d'identité. Il faut plus qu'on appelle monsieur ou madame. Moi c'est comme ça que je l'ai compris.
Alors franchement, est-ce que vous vous sentez un homme parce qu'il y a marqué M sur votre carte d'identité?
Non, pas spécialement.
On est bien d'accord. Mais enfin, laissez-moi finir. Si cette marque venait à disparaître de votre pièce d'identité comme elle l'était pas dans les années avant 94. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit dans votre identité d'être homme?
A priori, non.
Donc, il va rien se passer de plus de supprimer ou de mettre cette mention-là. La seule raison qui fait que maintenant, sur les actes de naissance, on continue de le mettre, c'est parce que ça garde l'impossibilité au mariage homosexuel. Pour l'instant, c'est que ça. Ça ne sert plus qu'à ça. Parce que l'armée, il n'y a plus besoin... les femmes font l'armée comme les hommes, elles sont engagées volontaires comme les hommes, il n'y a aucun problème. Maintenant, il n'y a pas un métier où il n'y a pas des possibilités pour les femmes comme les hommes. Le numéro de sécurité sociale, ça sert à quoi? À la médecine de contrôler que telle opération ne peut pas être faite sur un homme. Sauf qu'il y a des cas où je connais par exemple un homme qui était intersexe et en fait qui était enceint. Parce qu'il a été déclaré sous le sexe masculin et en fait, il s'est retrouvé, c'était une femme en fait. Avec un gros clitoris, certes, mais c'était une femme. Et s'est retrouvé enceint suite à des relations sexuelles. Et en fait, la médecine n'a pu faire que... Enfin, la sécu n'a pu que vérifier, que constater que, oui, cette personne est enceinte. Mais c'est un homme. Bon, voilà. Alors, est-ce que le simple fait de ce contrôle-là, on peut pas le faire d'une autre façon? On peut très bien le faire d'une autre façon. Il n'y a pas besoin de noter sur des numéros de sécurité sociale. On peut très bien garder... et encore, est-ce que c'est nécessaire? Mais on peut le faire autrement. Il faut repenser le système. Il ne s'agit pas qu'il n'y ait plus d'hommes ou de femmes, il s'agit simplement de ne plus marquer, comme avant on marquait noir, blanc, on marquait religion, on marquait tout ça sur les cartes d'identité, il s'agit de supprimer cette mention-là sur l'acte de naissance comme ces autres mentions précédentes ont été supprimées, c'est tout. Ça n'a pas révolutionné, empêcher les gens d'aller à l'église que de ne plus marquer catholique, ça n'a plus empêché les juifs d'aller à la synagogue de ne plus marquer juif. Mais là c'est pareil, ça n'empêche pas les noirs d'exister de ne plus marquer noir dessus, ou blanc.
Oui, mais vous avez quand même des lois pour les hommes et des lois pour les femmes.
Citez-moi-en une.
Eh bien, tout ce qui est allaitement, naissance, etc. Je suis désolé.
C'est pas une loi. C'est pas une loi.
Bah, attendez, quand vous regardez le code du travail, alors c'est pas une loi. Si, c'est la loi, le code du travail.
Tom, t'es vraiment trop généreux. Je pense qu'il faut que tu recommences tôt.
Attendez. Pour l'instant, je constate qu'il y a que les femmes, à part quelques cas très très particuliers. Qui mettent au monde, qui allaitent et qui ont un certain nombre de...
Pour l'instant.
Oui, mais pour l'instant, on n'a pas encore changé les choses. Je suis désolé. Donc, il faut bien différencier. Donc, il faut bien différencier pour l'instant les deux.
Rassurez-vous. C'est pour ça que... Je pense pas que les hommes vont demander à allaiter s'ils sont pas dans une, dans la mesure de le faire. Donc, pour l'instant, même s'il n'y a pas cette distinction, une femme qui demande à le faire, il n'y a aucune raison qu'on lui refuse. Je ne vois pas en quoi ça changerait le droit du travail. faut pas tout confondre non plus.
Bah parce que sinon les hommes vont demander la demi-heure ou l'heure de pour allaitement sans allaiter. Pourquoi pas à la limite.
Un tout petit peu de bon sens.
La loi est la loi.
Un homme qui n'allait pas, il va pas aller demander. Je veux dire, le patron serait en droit de lui dire non. Bah, il serait en droit de lui dire non, puisqu'il n'allait pas.
Ça s'appelle l'égalité, monsieur. Je suis désolé.
L'égalité, oui, bien sûr.
Je vais prendre un congé parental pour donner le biberon. Il n'y a pas de problème.
Je vais rebondir sur cette question-là parce que je trouve qu'elle est très intéressante. Finalement, lorsqu'on a été, après avoir tapé un petit peu du poing sur la table et sur la porte du Parti Socialiste, on a été reçu par le Parti Socialiste. Et une des responsables du Parti Socialiste, pour nous expliquer pourquoi elle trouvait. Tout à fait normal qu'il y ait des contrôles parce que je veux dire, on pouvait pas autoriser les gens à changer de sexe comme ça. Enfin, c'était juste inimaginable. Tout simplement parce que un argument qui rejoint un peu le tien, qui consiste à dire, peut-être qu'il y aura des bandits qui vont essayer de changer de sexe pour échapper à la justice. Donc voilà comment des responsables du Parti Socialiste nous ont dit qu'il fallait absolument limiter les procédures de droit au changement de sexe, parce que ça pouvait créer, enfin je veux dire, Colonna aurait changé de sexe pour rester plus longtemps dans les... Donc voilà les arguments, les arguments qu'on nous a opposés. Et toi, cet argument n'est pas si loin que ça, qui consiste à dire que, je veux dire, des gens vont se mettre à profiter du système. Enfin, je veux dire, qui profite de quoi, là, en l'occurrence?
Pour répondre à monsieur, en fait, le genre, les problèmes que pose le genre, c'est toujours des problèmes de violence et pas que contre les trans ou je sais pas quoi, mais pour n'importe qui. C'est-à-dire, il faut juste avoir un peu de mémoire et se rappeler toutes les violences que génère le genre. C'est-à-dire, à une fille, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu te bats pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Un garçon, on lui dit, si tu fais pas ça, t'es pas un mec. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, il y a un connard, une fois, qui m'a provoqué. J'ai pas voulu me battre, j'étais une fiotte pendant plusieurs mois, quoi. Et moi-même, je me disais, la prochaine fois, je vais me battre. Enfin, il y a tout ça. Tout ce qu'on a à perdre par rapport à la déconstruction du genre, c'est les violences que ça engendre. Mais la question, c'est simplement comment. Parce que j'ai l'impression que ce truc, c'est sacrément solide, quoi. Parce que, d'une part, il n'y a pas de contenu, c'est-à-dire que nul n'arrive à définir ce que c'est qu'un homme et une femme. Et en même temps, il y a une sorte d'instinct, il y a quelque chose, il y a une sorte de réflexe naturel comme quoi c'est incompatible. On n'arrive pas, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à penser. Enfin, je me souviens une fois d'une discussion, je parlais de l'égalité, de la déconstruction du genre, et puis tout de suite, la fille, elle me disait, mais non, il faut qu'il y ait des hommes et des garçons, on est complémentaires, tout ça. Et alors même que j'avais l'impression que, sans même avoir réfléchi, il y avait une sorte de réflexe de conservation de ce truc-là. Donc, moi, la question que je me pose, c'est surtout comment. Non, mais pas, je dis pas que c'est naturel et tout, mais c'est... me rentrez pas dans le lard, j'ai pas utilisé toujours le bon vocabulaire, je suis désolé, mais c'est juste l'impression que je donne, quoi. Et c'est, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de qui n'est pas légitime, parce que je sais que de par le genre, il y a énormément de violence qui est générée, mais ce que je veux dire, c'est j'ai du mal vraiment à savoir d'où ça vient, mais pas pour dire que ça vient nulle part et on peut rien faire, mais moi il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup.
Oui, donc moi c'est Vincent, et je voulais juste donc revenir un peu d'une manière plus générale sur le séminaire de ce soir, parce que déjà la question trans, comme la question comme l'homosexualité, quoi, les questions de l'identité, ce sont des questions qui permettent de mettre en évidence justement la notion de norme, hein, montrer que la norme, hein, tout simplement. Elle stigmatise, elle assujettit, et puis même avec les exemples qui ont été donnés, qu'elle tue, hein, et que finalement, la norme n'a rien de légitime. Hein, la norme, ce n'est que du social. Hein, par exemple, pour caricaturer chez les nazis, la norme, c'est d'être nazi, et chez les cannibales, la norme, c'est d'être cannibale. Donc, ça a bien été montré ce soir, hein, je pense. Mais là aussi, où je voulais, parce que des fois, je vois des propos, c'est vrai, certes radicaux, mais qui permettent de faire avancer les choses. Hein, ça, je le comprends. Mais sur la question de la psychanalyse, hein, c'est quand même, il y a un rôle de la psychanalyse C'est parce que moi j'ai quand même fait une analyse, hein, et qu'est-ce qu'elle m'a permis la psychanalyse, c'est d'être plus libre, hein, ça. Qu'est-ce qu'elle permet quand même la psychanalyse, c'est de montrer la singularité de chaque individu. Hein. Chaque individu n'est pas pareil, et justement, hein, donc bon, et elle met en évidence justement aussi cette notion de norme. Hein, et quand on a conscience qu'il y a des normes, ben tout simplement, ça nous rend plus libres. Hein. Donc, justement, j'avais entendu sur France Culture des propos de Elisabeth Roudinesco, qui avait fait l'histoire de la psychanalyse. Alors, moi, je n'ai rien lu de Elisabeth Roudinesco, mais au moins quelque chose qu'elle disait, c'est que la critique de la psychanalyse, elle ne se faisait pas au bon endroit. C'est-à-dire que s'il y avait une critique à faire, c'était que le monde psychanalytique, hein, et c'est pas la psychanalyse, hein, c'est qu'il était quand même très conservateur, et ça, c'est une critique qui n'est jamais faite. Or, elle existe, et je pense que c'est ce que vous critiquez, mais je pense qu'il faut mieux le formaliser. Voilà.
Alors, moi, je voulais vite rebondir sur ce que tu disais, parce que je pense que quand j'ai annoncé le GATT de façon un peu radicale, extrémiste, hétérophobe, communautariste, anti-républicain, et je le répète, hétérophobe et communautariste et anti-républicain, parce que je l'assume, et on le dit, on le répétera, je pense qu'il faut pas confondre quand on dit « Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. » Quand on dit hétérophobie, on parle d'un système. Quand on est contre la psychiatrisation, on parle d'un système. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on ait chacun fait une psychanalyse de tant d'années, ceci, qui, cela? Ça, c'est le problème de tout un chacun. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas être suivi ou être suivi obligatoirement ou ne pas du tout et jamais être suivi. On parle du pouvoir psychanalytique et du poids qu'il a, d'un point de vue idéologique, sur un contexte qui existe et qui est là. C'est uniquement cela que l'on conteste. Mais attends, la psychanalyse, ou comme l'hétérosexualité, on l'aborde comme un système. Attends, tu fais des signes derrière, tu me parleras
derrière. C'est juste après. Ne pas faire la critique de la psychanalyse et de la rejeter en bloc. C'est juste ce que je voulais dire. Hein. Voilà.
Un système.
Rajouter le mot système devant psychanalyse et le mot système devant hétérosexualité, parce que c'est pas l'hétérosexualité
en tant que psychanalytique, c'est le système
que ça, ce que ça aussi. Produit.
Un système psychanalytique qui est très français finalement, parce que je crois qu'il y a qu'en France que ce système-là existe aujourd'hui, puisque pas en Argentine paraît-il. Enfin, je n'ai pas d'amis argentins. Mais ceci dit, dans beaucoup d'autres pays, je veux dire, la psychanalyse est revenue à ce qu'elle aurait dû toujours être.
Mais je suis d'accord en voyant qu'il y a un milieu psychanalytique qui essaie de remettre les gens dans la norme, hein, et de suivre le troupeau et d'être dans la grégarité, tout simplement.
Oui, mais il y a d'autres psychanalystes qui ne sont pas comme ça. Exactement. Et
ils existent, il faut le dire.
Mm-hmm. Je pense que c'est très important.
Même s'ils ne sont pas fréquents, mais c'est vrai que... Voilà. J'en connais personnellement, donc...
Je pense que c'est très important aussi politiquement. Et moi, en tout cas, je n'assimile pas la psychanalyse à une idéologie. Je pense que c'est aussi quelque chose que j'avais envie de dire.
Non, juste de dire que je te faisais des signes, Vincent, donc je vais le redire encore tout fort, c'est que psychanalyse et psychiatrie, ça n'est pas la même chose. Et que tu vas écouter, justement, tu vas à Paris 7, ou tu vas voir quels sont les enjeux. Tu lis juste sur psychiatrie, psychanalyse dans Google, tu vois quels sont les enjeux entre le livre noir de la psychanalyse, entre les psychiatres et les psychanalystes, qui sont des enjeux, pour le coup, là, de pouvoir idéologique. Enfin, la critique de la psychanalyse pourrait se faire. Je ne crois pas que ce soit la question ce soir et que ce n'est pas lieu et qu'elle se fait par ailleurs, dans les séances de fin, etc., etc. Mais le fait que de vouloir continuer à dire que le DSM-4, ce sont par exemple des psychanalystes qui le rédigent, c'est faux, c'est archi faux. La dépsychiatrisation, il faut la demander. Cordier n'a rien d'un psychanalyste. Rien d'un psychanalyste. Par contre, il a forcément besoin d'une bonne psychanalyse, à mon avis, vu la manière dont il a pu être, si tu veux, effectivement, dont il est traversé d'une idéologie qui, visiblement, le sature, en tout cas, et du coup, le rend à ce point hermétique à l'écoute des personnes qui viennent le voir. Juste ça. Je dis juste, moi, que
machin... On est d'accord, là.
Parce que, après, l'autre petit truc qui me dérange aussi, c'est quand vous dites aux gens, bon, je le prends pas pour moi, vous dites aux gens, il faut faire attention aux mots, il faut se réapproprier les trucs, etc. Moi, ça me choque, hétérophobe. Je suis une trans, etc. Tu sais quoi? Je suis une trans, etc. L'hétérophobie, ça m'intéresse pas.
Ouais, t'étais une sorcière.
Aussi, mais par ailleurs, c'est dans d'autres espaces que je le suis. Je suis plein de choses, hein, si tu veux qu'on... Pas de problème. Mais,
j'ai rien dit.
Je crois, encore mais, une fois, c'est le vieux truc. On parle, on parle pas, que tu sois hétéro, c'est ton droit. On parle d'hétérophobie comme un système politique.
Non, mais j'ai moi-même précisé tout à l'heure que je pense que la meilleure des choses à dire, c'est de parler d'hétérocratie, d'hétérodespotisme, d'hétéropatriarcat, de tout ce que tu veux. Juste quand tu me dis hétérophobie, excuse-moi, ça fait écho à des trucs où je me dis, ah bon, ben, enfin, voilà, quoi. Exactement. Et c'est tout. Et psychanalyse et psychiatrie, encore une fois, ça n'a rien à voir. Et vouloir mettre les deux dans le même camp, c'est précisément faire le jeu des plus oppresseurs dans l'histoire.
Ça dépend d'où on parle et de quoi on parle.
Il faut bien savoir que la psychiatrie française, je veux dire, pour être psychiatre français, on apprend la psychanalyse. Je veux dire, on apprend la psychanalyse. On l'apprend encore.
Désolé, non. Aujourd'hui, on n'apprend plus du tout la psychanalyse pour être.
Ce que je veux dire, c'est que un type comme Cordier, par exemple, son maître à penser, c'est Colette Chiland. Et Colette Chiland est aussi psychanalyste.
Voilà, c'est sa deuxième.
Elle est des deux. Donc, il y a beaucoup de psychiatres sont aussi psychanalystes. C'est comme ça qu'on a la psychiatrie qui s'est fait noyauter par la psychanalyse, qui s'est imbriquée en France. C'est bien la particularité de la France, c'est que la plupart des psychiatres sont passés par l'école psychanalytique.
Anciens, de 40 ans et plus.
Qui est-ce qui a le pouvoir aujourd'hui normatif?
On est d'accord, mais les nouveaux, les 40 aussi, non, pas tous, mais dans une partie. Mais en tout cas, les jeunes, eux, ne sont pas passés sur le divan. Il y a une vraie modification chez les psychiatres plus récents, en tout cas.
La plupart d'entre eux ne sont pas médecins.
La plupart.
Ils sont des linguistes, des philosophes. Des artistes, tout ce qu'on veut, mais il faut pas. On n'avance pas quand on fait des confusions. C'est pas peut-être le moment ce soir, mais on utilise la notion d'identité comme si ça allait de soi. Moi, je suis tout à fait en questionnement. Quand tout à l'heure vous disiez, et si on met M, est-ce que vous sentez votre identité masculine est plus forte? Moi, la notion d'identité, je trouve que adhérer sans questionnement à la notion d'identité, moi, ça me paraît très conservateur, je dirais. Hein. On peut parler de la personne mais là, et être multiple en soi, mais cette question d'identité, c'est du 1. Alors moi, je ne comprends pas très bien ce qu'on fait comme ça. Je crois que les mots, c'est très important. Et si on voulait un peu dériver, alors je me l'autoriserai, quand on dit que homme-femme, tout ça, c'est pareil, sauf que sur 100 prisonniers et prisonnières, il y en a 95 ou 97 qui sont masculins. Alors, il faut qu'on parle de ces questions-là. C'est pas dire je suis pour ou je suis contre. Essayons de travailler ces questions-là. Pourquoi tant d'hommes sont dans les prisons? C'est intéressant. Et on fait le contraire, c'est plutôt les femmes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques et les hommes qui sont dans les prisons. Essayons de comprendre. Alors, quand on dit c'est tout pareil, moi, je pense que quand on dit c'est tout pareil, c'est une façon de ne pas avancer. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec la façon dont vous parliez, parce que tant qu'on ne travaillera pas les différences qui existent, qui nous structurent, qui sont dans nos représentations, on ne pourra pas transformer et adhérer à des positions qui camouflent tout ça. Moi, je pense qu'on déconstruit. Il faut savoir ce qu'on déconstruit pour après construire des niveaux de tolérance. Et moi, l'identité, je trouve ça inintéressant. J'ai pas d'identité. J'ai des identités, si on veut. Des multitudes en moi, mais j'ai pas une identité. Ça, je suis désolée, mais ça, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que dire une identité, c'est capitalistique au possible.
Alors, tout simplement parce que toi, t'as pas eu à se... Ce problème-là, t'as pas eu à le gérer, voilà. Je veux dire, moi, je trouve ça. Enfin, moi, je parle pas de dire qu'il faut que telle ou telle personne, déconstruire sa propre identité. Je veux dire, mais l'élaboration. Enfin, il faut qu'on soit clair. Je veux dire, là-dessus et là un petit peu cette réflexion-là. C'est, je veux dire, on n'est pas en train de demander à chaque personne de se réquestionner individuellement par rapport aux questions que nous avons posées, qui sont d'ordre politique. Je veux dire, là-dessus, il est bien évident que ça n'est pas en faisant une. Enfin, je veux dire, on va pas déconstruire une norme pour chaque personne. La question n'est pas là. L'identité, quand on parle d'identité, je veux dire, on a un sens extrêmement précis là-dessus. Oui, mais tu dis tout de suite ton identité à toi, elle n'est pas comme ça.
Non, mais je n'ai pas dit mon identité. Il y a assez de philosophes et il y a assez de gens intéressants.
Valérie Marange pourrait en parler beaucoup mieux que moi, qui ont quand même passé beaucoup de temps à déconstruire cette question d'identité. Et que je sache, c'était plutôt des gens qui étaient très ouverts sur les questions que vous posez.
N'empêche qu'on en est toujours en 2007, même point. Voilà. Donc il y a encore du travail à faire.
On est au même point parce que justement, les mots n'ont pas été bien choisis pour entraîner une compréhension de la situation.
La recherche de vocabulaire depuis qu'on a commencé les séminaires, c'est important parce qu'on essaie de trouver des mots pour pouvoir déjà dialoguer et pas dire que l'autre n'a pas les mots pour le dire. Donc on essaie de les uns les autres, qu'on soit directement concernés ou pas directement interpellés par ces questions-là, d'essayer de trouver justement un vocabulaire qui nous permette de communiquer et à la limite effectivement de s'informer et pas se renvoyer les uns les autres, va lire machin, va lire bidule. Bon, vous êtes aussi capable ici d'alimenter un petit peu les choses en donnant aussi simplement que possible des possibilités diverses pour pouvoir se comprendre.
C'est vrai qu'il y a, enfin, c'est vrai que pour, puisque Ginette me tend la perche, que je pense qu'il y a une confusion depuis très longtemps, mais dans le domaine des luttes raciales, etc., entre la notion d'identité et celle de différence, qui en réalité sont des notions totalement opposées. C'est-à-dire que identité, ça veut dire A égale A. Le principe d'identité, c'est ça, c'est A égale A. Et que le fait qu'on s'abrite derrière ce mot d'identité pour, au fond, poser une singularité n'est pas, effectivement, très approprié. Bon, alors après, les mots, on peut les employer, on peut en faire ce qu'on veut. Mais je dirais peut-être au-delà de ça, il y a peut-être un autre problème qui est peut-être une espèce de... qui là, pour le coup, j'irais plus du côté de Foucault que Deleuze là sur ce terrain-là, mais qui est la question de l'aveu, quoi. Mais ou même, bien que je vois très bien, par exemple, comment ACT UP a été amené à s'affirmer comme un mouvement homosexuel, même s'il n'y avait pas que des homosexuels dans ACT UP, etc. Mais c'est comme si on se sentait tous obligés aujourd'hui de dire ce qu'on est, comme ça, publiquement, comme si d'abord on le savait. Et qu'ensuite, il fallait le dire et que c'était comme ça qu'on allait effectivement affirmer quelque chose. Bon, je dirais le dernier point, moi, ça m'est plutôt venu en lisant Prochoris, qui est effectivement quelqu'un qui n'est pas vraiment dans les mêmes champs philosophiques que mes maîtres d'origine, on va dire, mais qui était du côté du commun. Enfin, je me demande si effectivement on n'est pas quelquefois en train de fétichiser, pas au sens psychanalytique du terme, mais au sens de base anthropologique du terme, la plus petite différence pour être comme ça dans des jeux de faire valoir, enfin bon, alors qu'au bon, au bout du compte, effectivement, on n'est peut-être pas si différent que ça qu'on croit. Voilà. L'exemple que tu donnais sur la prison est quand même effectivement extrêmement intéressant. En tout cas, j'en tirerai pas des conclusions sur la biologie et sur les hormones de l'agressivité, etc. Bien qu'on sait que ça existe un peu aussi, malgré tout. Bon. Mais par contre, sur les assignations de rôle. Pareil sur les assignations de rôle qui sont extrêmement importantes, quand on sait aussi par ailleurs que la majorité des femmes qui sont en prison sont en prison pour des délits qui sont liés à leurs hommes, la majorité. Après, il y a une petite minorité qui sont effectivement les infanticides, principalement. Le reste, la plupart du temps, ce sont des délits qui sont liés au fait qu'elles suivent leur mec à un moment, que ce soit effectivement du côté de la prostitution ou d'une assistance quelconque qui est donnée à la délinquance.
Juste un truc, parce que il y a quelque chose qui me gêne. C'est vrai que, bon, comme tu l'as posé, la question de l'identité, c'est vrai que c'est hard, quoi. Mais par moments, il y a des choses qui ont tellement peu de visibilité ou qui n'arrivent pas à se faire entendre que les choses, on est obligé, enfin, c'est, ces personnes ou ces mouvements ou ces revendications qui se politisent et qui deviennent radicales sont quand même obligés à un moment donné de se positionner d'une manière assez forte et assez harde, plus qu'il ne faudrait, pour effectivement que la chose soit entendue, que la chose ait de la visibilité, que la chose soit montrée. Sinon, effectivement, c'est pas possible, quoi. Voilà.
Et je veux dire là-dessus, quand même être très clair. Je veux dire, on a l'impression qu'il y a une espèce de récupération. Je veux dire, finalement, l'identité, c'est juste qu'on se trompe, voilà. C'est juste que quelque part, je veux dire, finalement, vous faites beaucoup de bruit pour rien. Au fond, là, on est reparti à discuter. Je veux dire, il y a que des hommes en prison, avec les femmes qui y vont, etc. On est en train de, dire ce que nous on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous faites que reproduire le système et vous le reproduisez. Je veux dire, nous, on essaie d'amener ce question. Vous le reproduisez dans le discours. Je veux dire, l'environnement théorique qui est derrière les transidentités, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a beaucoup d'autres, ces questions théoriques ne sont pas encore probablement suffisamment matures pour qu'il y ait des gens capables, je veux dire, de discuter et de contredire éventuellement des thèmes mainstream. Et c'est pour ça que la psychanalyse, je veux dire, fait beaucoup de dégâts, parce que après avoir été évidemment quelque chose de libérateur, la psychanalyse est devenue quelque chose de très conservateur, et que maintenant le discours féministe aussi, je veux dire, reste un discours pour l'essentiel également conservateur, en se battant pour la parité, en se battant pour un certain nombre de choses qui, dont on sait très bien que la visibilité au long terme, alors que des militantes comme Monique Wittig, je veux dire, elle avait vraiment pris, je veux dire, un temps d'avance, et que ce temps d'avance n'est toujours pas amené, n'est toujours pas récupéré par les mouvements féministes aujourd'hui, et que c'est, je veux dire, en minimisant la différence, je veux dire, c'est, je veux dire, une manière de réenfouir toutes les questions des minorités, et que c'est dommage.
Pour le coup, moi, j'ai vraiment allé dans le sens de Karine, à la différence près que je pense qu'il y a des féminismes et il y a des psychanalyses, et que par conséquent, je suis pareil. Le petit truc, c'est juste que c'est pas le féminisme. Oui, le féminisme blanc est républicain et conservateur, mais le féministe indigène est résistant, il l'est beaucoup moins. Après, c'est une question de choisir son camp, avec quel féminisme on se bagarre et là où sont nos solidarités de lutte. Moi, je veux quand même aussi juste dire que sur cette question de l'aveu ou quoi ou qu'est-ce, c'est que ouais, mais c'est qui parle à quel moment, et que l'émergence sur la place publique, par exemple, de groupes comme ACT UP, enfin en 86, 7, 8, de dire qu'on était séropos à une époque, c'était quelque chose qui était mais absolument impensable, et que cette prise de parole-là, c'est quand même autre chose que d'arriver avec une parole. Alors oui, aujourd'hui, je pense que les notions d'identité, elles sont dangereuses, parce que c'est les notions d'identité qui ont été récupérées par le mec blanc hétéro. Enfin, aujourd'hui, celui qui est un expert de la question identitaire, c'est Thierry Ardisson, qui est un blanc hétéro, bourgeois, libertin, etc., catholique, etc., etc., et qui va parler de son identité de mec, et qui a très bien compris d'ailleurs, et c'est le piège que nous, les minoritaires, puisque même Gérard Miller, il a écrit un livre qui s'appelle Minoritaire. Alors imaginez, je l'aime pas par contre, mais cette question de l'aveu, c'est pas une question de l'aveu, c'est juste que c'est encore une fois une question de survie, c'est une question qui a un moment où il n'y a pas le choix, et que la question de trans et que l'émergence du GATT, enfin, je sais que vous avez pu le constater, qu'il n'y a pas forcément toujours des accords sur, enfin, il n'y a pas toujours des accords. On va laisser ça comme ça, entre nous. Mais qu'en tout cas, c'était non seulement indispensable, mais salutaire pour la question politique, enfin, si on doit le dire comme ça, trans aujourd'hui en France. Et c'est évident que c'est pas fini. Et de la même manière que le questionnement que vous pouvez... Pardon, mais c'est parce que la façon dont vous avez posé la question tout à l'heure sur « Oui, mais je comprends pas la nécessité comme ça d'entamer une transition. Enfin, je comprends pas pourquoi machin. » Enfin, mais... Ben, moi, ça me pose un problème que ça vous interroge. Enfin, je comprends que ça vous interroge, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est que cette limite-là, c'est précisé... Enfin, pardon de le dire, mais c'est la limite des gens qu'on rencontre dans les hôpitaux. C'est la limite des gens qui nous disent, mais non. Et c'est après, moi, je suis très critique avec les queers, hein, puisque c'est eux qui viennent nous dire, mais non, ça se dépasse. Enfin, comme vous, les hormones, c'est pas utile. Puis quelle chirurgie ? Non, non. Et d'ailleurs, maintenant, il y a même des gens... identité queer qui vient de t'expliquer que c'est des trans qui font le choix de ne pas prendre d'hormones et de ne pas te faire de chirurgie. Là, tu dis, waouh, trop fort. C'est la boucle est bouclée. Et effectivement, qui c'est qui continue à poser des problèmes? C'est les trans. Alors là, pour le coup, le fléau social, il est, c'est effectivement, alors on pose le problème à la psychiatrie, on pose le problème probablement à la psychanalyse de temps en temps sur certains divans, on pose le problème à la philosophie, on pose le problème, et que finalement, bon, moi, ça m'intéresse pas, hein, de poser problème. Encore une fois, c'est d'avoir du sexe, d'être heureuse, trouver du boulot, de vivre ma vie, et voilà. Je l'ai dit dans cet ordre-là.
Je voudrais juste souligner quelques mots que vous avez dit, juste souligner quelques mots que je trouve très intéressants et qui sont bienvenus. Je pense qu'à cette fin de débat, vous avez parlé de pluralité et je trouve que c'est essentiel, cette question. Vous avez beaucoup parlé de politique et je pense qu'on vit là un moment politique tout à fait particulier et qui vraiment, il faut, c'est intéressant de s'insurger contre le système totalitaire et de la pensée unique. Là, voilà. Je pense que ça, c'est politique. Vous avez été très politique aussi. Et je voudrais juste souligner pluralité, politique et contre la pensée unique.
Moi, tout ça me faisait penser quand même à un article qu'on avait publié dans Chimère il y a, je ne sais pas, 5-6 ans. Qui était sur des hommes au Mexique, qu'on appelle les mouches, qui sont désignés par leur mère à la naissance comme devant être élevés comme des filles et remplir une fonction sociale, enfin pas proprement parler féminine, d'ailleurs ils ont une fonction sociale particulière, enfin, c'est une espèce de troisième sexe, effectivement, au sens... classique du terme, c'est-à-dire que effectivement, non travestis, mais bon, ils ont aussi une fonction
sociale. On leur a, enfin,
sauf que c'est institué socialement, s'ils sont désignés dans la famille. Mais je te dis pas le contraire. Bon, tu peux appeler ça les travestis si tu veux, ok, mais c'est un peu réduit. Bien, si c'est un troisième sexe, dans le sens où on ne leur assigne ni un rôle masculin, ni le rôle féminin traditionnel, on leur assigne encore un troisième rôle. Qui consiste essentiellement à organiser toutes les festivités de quartier, de machin, etc. Ils ont un rôle social extrêmement défini et qui n'est pas celui qui est assigné aux femmes. Eh bien, peut-être. Oui, sauf que ça va avec... Non, mais attends, ok, bon, alors tu connais pas le cas et tu sais déjà ce que c'est. Très bien, c'est pas grave, mais... Non, mais je sais pas, ça vaudrait peut-être juste le coup quand même de se documenter un petit peu avant de dire c'est comme les moines et comme je sais pas quoi. Si, alors il y a un fait qui est extrêmement intéressant, mais c'est pas la pureté. Ils couchent avec des mecs. S'ils ont une vie sexuelle, ils couchent avec des mecs, généralement, c'est comme ça que ça se passe. On leur confie des enfants en adoption, etc. Bon, simplement ce que je voulais dire, c'est que peut-être ce qu'on néglige un tout petit peu, là, en ce moment, dans ces affaires, c'est que ces identités déviantes, entre guillemets, par rapport à la norme majoritaire, correspondent quelquefois aussi à des assignations, voilà, sociales. On fait comme si c'était d'emblée dans l'ordre du choix, de la revendication politique, etc. Sauf que des fois, on peut se retrouver coincé dans ces trucs-là. Et je ne suis pas sûre que la chirurgie par là-dessus soit géniale. Voilà.
Ce que je trouve intéressant, c'est la revendication. Je voudrais simplement ramener ça. C'est parce que l'on, c'est encore des jugements. Alors qu'il ce soir, il y a des gens qui vivent la chose. Et ça, je trouve que c'est important. Qu'ils aient aussi qu'eux puissent parler de là où ils sont, avec toutes les contradictions qu'ils doivent vivre. Oui, mais d'accord, mais en même temps, on peut pas, j'entends trop un petit peu ce discours-là depuis tout à l'heure, c'est que de là où ils sont, qu'ils puissent aussi parler de leur identité plurielle de là où ils sont. Et Tom, tout à l'heure, tu en as parlé, qu'on pouvait être trans, on pouvait être ci, on pouvait être ça en même temps, et que ça, c'était pas la question, n'était pas là. C'était pas dans la question des identités. De l'identité en soi, c'est autre chose qui se passe. C'est une liberté de faire ce qu'on veut de son corps. Et puis voilà. Et pourquoi on parle pas de ça? Mon corps m'appartient, c'est vrai. Il y a eu 300 salopes qui ont signé en une certaine année pour dire à un moment donné qu'elles avaient avorté. Et des années SIDA, il y a des gens qui ont fait un coming out. Donc ça, c'est important aussi à un moment donné, ben voilà, de se mettre en danger pour que les choses bougent.
Moi, je veux bien dire un petit mot. ici. c'est sur le piège des identités, effectivement, il y a des assignations. Et je crois que la question de l'identité transsexuelle, c'est bien une question d'assignation. Et c'est bien pour ça qu'il y a des recherches d'autres termes pour échapper à ça. Par ailleurs, sur la question des multitudes, pour lire quand même un certain nombre de tracts, de sites internet, etc., transidentité, je l'ai rarement vu, peut-être même jamais, sans S à la fin. Je ne l'ai jamais vu au singulier. Donc voilà. Et sur la question de l'assignation identitaire et transsexuelle, c'est évident qu'il y a un piège là-dedans, qui est la définition médicale. Mais par ailleurs, les médecins se sont aussi fait piéger, notamment par le célèbre cas Agnès, qui est une intersexe qui vient demander une opération, puis quelques années après, elle dit bah, « en fait, j'étais pas du tout intersexe, je piquais les hormones de ma mère ». Bon, donc je veux dire, il y a quand même tout un jeu aussi, c'est le chat et la souris. Enfin, je veux dire, sur la question... maintenant, j'ai quand même une interrogation pour Andrea Linares, puisque vous avez commencé votre exposé en disant que vous alliez puiser dans le XVIIIe siècle pour échapper à des dangers du débat de savoir si on était pour ou contre, d'accord ou pas.
Paralysait ma pensée.
Oui.
Je pense que je portais cette
d'accord, parce que sur les exemples que vous avez donnés, je pense à Tardieu et ses itis pointus et ses bouches déformées, etc. Et dans le sens inverse, qui est plutôt l'origine somatique qui produit des déviations, je crois qu'aujourd'hui, on en est quand même toujours là.
Ça qui est terrifiant. Je portais comme pour montrer la caricature des dangers qu'on peut subir, à quel point ces théories-là, elles sont terrifiées de la sexualité telle que je l'entends, hein, psychanalytique, inconsciente du désir humain, à quel point c'est des théories folles, on pourrait dire comme ça, très, très normatives. Du coup, vous voyez, donc je montrais la caricature pour montrer aussi, à un moment donné, j'ai même souligné cette théorie-là qui attribuait, qui disait il faut trouver les raisons dans le cerveau, on va trouver avec les avancées de la médecine, parce qu'il y a des théories actuelles qui cherchent ça, le gène et de l'homosexualité, et puis quoi encore, du désir humain. Donc c'est voilà.
C'est les doigts de la main droite.
Donc non, c'était juste pour faire une mise au point, parce qu'effectivement il y a ces questions-là. Il y a des questions effectivement qui renvoient directement au fantasme des praticiens. Je veux dire, quand un psychiatre d'une équipe hospitalière dit que c'est pas possible, enfin que c'est complètement con, débile, ou je sais plus trop comment il exprimait ça, d'opérer un mâle pour en faire une femme, pour qu'ensuite elle couche avec des femmes, parce que il va falloir avoir recours à des godemichés ou je ne sais quoi, ça renvoie quand même directement au fantasme du praticien. Quand Colette Chilan dit qu'elle ne peut pas considérer quelqu'un comme étant un homme parce que il n'a pas la capacité de la pénétrer. Je veux dire, on est en plein dans le fantasme, dans le contre-transfert, etc., etc. Je veux dire, c'est pour ça que je comprenais pas trop le votre souci entre guillemets d'exotiser la chose et d'aller chercher dans le.
Bon, en tout cas, c'est pas mon but. C'était aussi pas de montrer, mais c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, c'est l'expérience de à quel point notre pensée, qu'on la prend pour évidente, elle est historiquement aussi contextualisée. Parce que ces gens-là, personne ne rigolait comme moi je rigolais tout à l'heure à leur époque. C'était du sérieux, c'était des savants. Et de se déplacer dans le temps permet aussi de se déplacer soi-même. C'est-à-dire, moi, ce que je pensais être une évidence et la base sur laquelle je me construis, eh ben, peut-être qu'elle peut être différente. Et c'est ça le travail, à mon sens, aussi de l'analyse. C'est de montrer, ah, je peux penser autrement. Michel Foucault a une très très belle citation dans l'histoire de la sexualité où il dit, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas continuer à vivre si on n'arrive pas à penser autrement. Et pour moi, c'est ça aussi la démarche analytique. Et penser autrement, parfois ça passe par le fait que c'est possible de penser autrement. On a déjà pensé autrement à d'autres périodes. Mais c'est à chaque fois inventé comment je vais penser autrement pour pouvoir vivre. C'est la question.
Je trouve que c'était une très belle conclusion. On va peut-être arrêter là.
Je voulais juste dire que penser, c'était aussi avec son corps qu'on pensait et qu'il ne fallait pas avoir peur de son corps ni des hormones et de la chirurgie. Personne ne veut vous faire de chirurgie, madame. Et si vous avez envie, sur le site, les mots sont importants. Il y a un manifeste chouette qui s'appelle justement directement inspiré des 343 salopes, manifeste trans, que vous trouverez donc sur le site lesmotsontimportants.net.
Là, il est déjà en lien avec le site de la Maison Populaire.
En plus.
En plus.
Et allez sur la baronne, site trans.
Mais bien, merci à vous, bonne soirée et à la prochaine fois, la prochaine séance. C'est le 9 janvier maintenant, genre et parité en milieu du travail. Et par contre, entre les deux, ce prochain séminaire, il y a deux séances de films.